Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la vie de jeune homme de Gérald Darmanin, qui nous a servi pendant des années de ministre de l'Intérieur et qui fait maintenant dans la justice, où il se fait autant conspuer, notamment par les avocats, cette semaine lors de ses vœux. Oui, c'est la cérémonie des vœux. Ils aiment bien les cérémonies. Et à propos de justice, le tribunal administratif de Nice a confirmé cette semaine la condamnation de l'État pour atteinte à la liberté d'expression à la suite d'une visite de l'humoriste d'extrême droite, vous savez, hein, qui s'étouffe quand on lui parle de violences policières. Ça se passait à Nice en décembre 2022. Des CRS avaient sur ordre caché par un drap des messages féministes présents sur la devanture de la librairie Les Parleuses. Pourquoi ? Parce que le ministre passait dans le coin et qu'il ne fallait pas qu'il voit ça. Pauvre petite chose. Les messages qu'on ne pouvait pas lire, puisque les services de l'État les avaient cachés, étaient par exemple « Qui sème l'impunité récolte la colère »,« Victime, on vous croit », »,« Violeur, on vous voit » et « Sophie, on te croit ». La Sophie en question étant Sophie Patterson Spatz, qui accuse Gérald Darmanin de viol. Vous avez toute l'histoire sur la page Wikipédia de l'ex-directeur de campagne de Christian Van Est. Oui, c'est pour mettre du contexte sur Gérald Darmanin. L'État avait déjà été condamné en première instance en juin 2023, mais bien sûr, il avait fait appel, sûr de son bon droit. Et c'est cet appel qui a confirmé la condamnation. Une affaire qui rappelle toutes les injonctions et menaces des flics et Pandore pendant les confinements, par exemple, contre les gens qui affichaient des messages pour le moins critiques à l'égard du vrai banquier et mauvais acteur qui nous sert de péter de la rep. À force de cacher le réel à tous ceux qui sont censés nous représenter, ils ne nous représentent plus vraiment. Même si, au départ, ils n'en avaient pas vraiment l'intention. Je rappelle que Gérald Darmanin est prêt à tout pour sa carrière. Il est tellement prêt à tout qu'il a eu une vie de jeune homme où il se faisait faire des pipes en échange d'HLM. Ça craint un peu, ça craint même totalement. En tout cas, cacher le réel, on voit bien que l'ami Potemkin a fait de nombreux émules. Peut-être un petit peu trop. On aurait pu vous parler des candidats d'extrême droite aux municipales. Comme à chaque élection, les valeurs de ces candidats ressortent au grand jour. En Meurthe-et-Moselle, un conseiller municipal RN de la ville de Nivelanges, en Moselle, se présente à Jarny, c'est en Meurthe-et-Moselle. Et dans ses traces numériques, en l'occurrence sur X, les journaux Libération et Le Parisien pointent du doigt des tweets complotistes, sexistes et racistes. Une brebis galeuse, me diraient des racistes, sexistes et complotistes qui peuplent les partis d'extrême droite et ne veulent surtout pas qu'on sache quelles sont leurs véritables intentions. Un ancien, Les Républicains, se présente sous l'étiquette RN à Saint-Nazaire. Non, c'est histoire de dire que c'est pas tout à fait une brebis galeuse, ou alors qu'il y a un troupeau de brebis galeuses. Donc le bonhomme là à Saint-Nazaire, rallié de dernière minute, il est au RN depuis 2023, il s'est fendu de nombreux tweets qui sont eux racistes, homophobes et insultants, qu'il a effacés mais dont vous pouvez retrouver la teneur sur l'excellent site lesjours.fr. Les comme les, puis jour comme jour, mais au pluriel du coup, si elle est devant, lesjours.fr. Sur ce site, on apprend depuis début janvier que le compte Résistance Patriote rassemble plus de 23 000 personnes qui se lâchent sur tout ce qui fait les valeurs de l'extrême droite, c'est-à-dire le racisme, l'antisémitisme, et puis le sexisme, l'homophobie, l'islamophobie et tutti quanti, vous savez, cette relation à la hiérarchie où forcément il y a des êtres supérieurs à d'autres, ça c'est l'extrême droite typique. Au milieu de ces 23 000, on a 6 députés et eurodéputés RN. Combien de militants RN ? Le calcul n'a pas été fait. Ça commence à faire beaucoup quand même. Le réel est tenace. Quand on parle d'extrême droite, on nous la joue. Ah, oh, mais des diabolisations. Oh, mais ces gens-là, maintenant, sont devenus respectables. Respectables par qui ? Sans doute par les libéraux, qui ont une peur panique du communisme. Là, ce serait le partage. Alors qu'avec les fachos, il n'y a pas de souci. On va faire en sorte de s'arranger avec l'État pour continuer à se gaver. Donc, pour les libéraux, ça ne pose pas de problème, la respectabilité de l'extrême droite. Dans les médias Bolloré, relayés par le service public, oui, de plus en plus, on passe beaucoup de temps à faire de l'extrême l'extrême gauche, les nouveaux fascistes. Seulement, les adeptes de la hiérarchie entre les races, les adeptes de l'ordre naturel, faisant des hommes des humains supérieurs aux femmes, par exemple, sont quand même le plus souvent à l'extrême droite. Une réalité à répéter partout. Partout et tout le temps. Alors, pour les arguments, je vous conseille de lire les comptes X de ces militants de l'inhumanité. Il y a des kilos et des kilos de trucs qui peuvent servir. On aurait pu vous parler de la connerie. Quand elle sera vendue au kilo, on saura exactement où aller se fournir. Et justement, on va encore parler du Rassemblement National. Comme quoi, hein. Dans le Canard Enchaîné d'il n'y a pas si longtemps, on a un petit article qui s'appelle « Transbordement ». Je ne résiste pas à vous le lire en entier. Le député RN Mathias Renault est colère. Selon cet élu de la Somme, le contribuable finance trop le secteur associatif et particulièrement des structures militantes et idéologiques, s'indigne-t-il dans un amendement au projet de loi de finances 2026 déposé la semaine passée. Il en veut pour preuve l'association Transmusicale, connue pour l'organisation de festivals de musique d'artistes transgenres. C'est texto dans son amendement. Ce festival rennais de musique actuelle n'a pourtant de militantisme trans que le nom. Il a été baptisé ainsi en référence à un disque de jazz de 1978. Que quelqu'un transmette cette information aux députés. Ah, ils sont forts au canard. Il n'empêche que M. Mathias Renault devrait peut-être vérifier quand même ses arguments. Maintenant, si à chaque fois que Mathias Renault voit le mot trans quelque part, s'allumer la rate au courbouillon, j'ai un petit peu peur que quand il voit une fenêtre transparente, il ait du mal à éviter de la bousiller. En tout cas, je le répète, quand la connerie sera vendue au kilo, on saura chez qui se fournir. On aurait pu vous parler également de la fin du monde. Oui, cette fin du monde, ça y est, elle est programmée, hein, personne ne fera rien pour l'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il y a du pognon à se faire. Alors du coup, on sait maintenant que 2025 a été la troisième année la plus chaude de l'histoire. D'aucuns disent quatrième, on va pas se battre, hein. Ça fait quand même beaucoup d'années les plus chaudes qui sont très très rapprochées tout au 21e siècle et ça commence à se voir que le climat est totalement déréglé et que ça va nous poser des gros problèmes incessamment sous peu, notamment pour la production de nourriture. Alors que faire ? Faudrait arrêter de produire n'importe quoi pour vendre ça à n'importe qui. Ce serait peut-être pas mal de pas faire partie des n'importe qui. Mais on a préféré continuer à vous parler des municipales à Angers.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
La dernière fois, nous avons vu ce qu'est une coopérative politique avec l'un des cofondateurs de Angers Coopérative, c'est-à-dire Noam Léandri. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il a produit un petit bouquin vendu 5 euros aux éditions Ozone, un bouquin qui s'intitule « Le pouvoir d'agir » où il explique très bien ce qu'est une coopérative politique. Il en a même fait une note que vous pouvez trouver sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Je vous laisse nous écouter ou alors chercher ces informations ailleurs. Nous avons vu ensuite comment s'est constitué le noyau de base de Angers Coopérative. Ah oui, mais une fois que le noyau de base est constitué, il faut se coller à la tâche, qui est, rappelons-le, donner la parole à la population dans une optique démocratique. Un comble quand même, donner la parole à la population, redonner la parole à la population, essayer de donner la parole à la population, c'est un comble en démocratie, puisque ça devrait être la base de l'action de nos soi-disant en représentant. À propos de parole, comment la redonner aux habitants ? Noam Léandri de Angers Coopérative nous donne la façon dont ils s'y sont collés à Angers Coopérative pendant toute l'année 2025.
Dans votre agenda, il était noté que de septembre 2024 à juin 2025, il y avait des réunions plénières mensuelles pour juger d'un certain nombre de choses qui étaient discutées dans des cercles thématiques. Alors toute cette organisation, elle a permis de recueillir la parole d'un certain nombre d'Angevins. Quels étaient les lieux de recueil de cette parole ?
Pour écouter les Angevins, on a procédé de deux manières. On a organisé des cercles thématiques qui étaient ouverts à tout le monde, mais c'est un groupe de réflexion sur 18 thèmes. On sait que c'est souvent les mêmes, les usuels suspects qui viennent, ceux qui ont des idées, ceux qui sont experts, ceux qui ont un intérêt finalement dans le domaine. donc ça ne permet pas d'écouter tout le monde. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sur le terrain avec une fresque qui a été inventée par un Nantais, Julien Dossier, qui a créé ce qu'on appelle la fresque de la Renaissance écologique. C'est une fresque qui, sur papier, fait 4 mètres de long et qui s'inspire d'une fresque qui avait été peinte à la Renaissance dans la ville de Sienne, où on tirait au sort des habitants pour gérer la ville pendant plusieurs mois. Ça a duré près d'un siècle, ce système de gouvernement démocratique à Sienne. Et ils avaient peint dans le, ce qu'on peut appeler ça aujourd'hui un hôtel de ville, d'un côté une fresque qui représentait une ville bien gérée, de l'autre côté la ville mal gérée, en guerre, en feu, à sang, et d'un côté, de l'autre côté l'agriculture florissante, le commerce fonctionnait bien, les gens souriants, formés, éduqués, etc. Et donc c'est exactement la même chose là, ça a été remis au goût du jour. Et donc cette fresque-là représentait une ville idéale d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on abordait les gens. Voilà une représentation de la ville idéale. Est-ce que vous estimez que Angers est une ville idéale et qu'est-ce qui pourrait contribuer à son changement? Et donc, ils collaient des post-it. Donc, on faisait ça dans l'espace public, au marché, à l'université, dans des lieux de passage, dans des commerces, pour recueillir l'avis des habitants sur leur ville. Et ça nous a permis de pouvoir dresser les priorités des Angevins, de voir quartier par quartier aussi leurs problématiques et leurs besoins. Et donc, c'est ça qui a nourri à la fois des cercles plus experts, même si c'était ouvert à tout le monde, à partir du retour du terrain. Et de découvrir peut-être un certain nombre de sujets auxquels on n'avait peut-être pas pensé. Et de voir aussi quelles étaient les priorités. Typiquement, la question des mobilités, des déplacements, des conflits d'usage, des trottoirs, des routes, etc. Entre les trottinettes, les vélos, les piétons, les voitures, etc. Ça ressort vraiment très fortement aujourd'hui. Beaucoup plus que ce qu'on voudrait nous faire croire, qui est la sécurité. Certes, la sécurité arrive en deuxième ou en troisième. Mais avant tout, le problème principal aujourd'hui à Angers, c'est la question des mobilités. Pour nous, ça devrait être le problème numéro un, le sujet numéro un sur lequel on doit répondre aux besoins des habitants, plutôt que de vouloir les orienter à tout prix sur les sujets de sécurité qui, on sait, vont servir plutôt l'extrême droite à la fin, avec le repli sur soi et l'idée qu'on serait dans une zone, dans des états de non-droit, quoi. Il peut y avoir effectivement une utilisation ou leur faire monter un sujet parce qu'on pense pouvoir plus facilement incarner la solution. Oui, ça, c'est effectivement... Les élus savent très bien le faire. Moi, je me souviens des élections régionales 2021 en Pays de la Loire. Moi, comme je disais, j'étais porte-parole de Mathieu Orphelin, qui était un des candidats aux élections régionales. Et je sais très bien que Christelle Morancel, l'actuelle présidente, avait fait campagne sur la question de la sécurité, encore une fois, alors que ce n'est pas une compétence régionale. Et donc, elle avait sorti un plan où elle allait financer l'installation de caméras de vidéosurveillance dans les communes de la région. Ce n'est pas une compétence régionale. Donc oui, on a bien vu qu'il y avait une tentation de vouloir... porter le débat sur des sujets sur lesquels on a l'impression de pouvoir être une meilleure incarnation. La droite, traditionnellement, estime être plus forte sur les sujets de bonne gestion des finances publiques ou de sécurité. La loi et l'ordre, comme on dit, alors que ce n'est pas une compétence régionale. Nous, les compétences régionales, c'était les transports régionaux, c'était les lycées et le développement économique. C'est ça, les grandes compétences régionales. Et donc, nous, on faisait campagne sur les compétences régionales pour répondre aux vrais besoins des habitants. Et donc, voilà, c'est pareil sur Angers. Il y a le sentiment, effectivement, qu'on essaye de déplacer le débat sur quelque chose où on serait plus à l'aise et ça discréditerait, finalement, une candidature d'alternance. Donc, on le regrette. Mais donc, oui, je pense qu'il faut qu'on maintienne parce que on a cette légitimité d'avoir écouté les Angevins, de savoir quels sont leurs besoins. Et donc, on veut continuer à vouloir répondre à ça. Nous, notre intérêt, ce n'est pas de gagner. Nous, notre intérêt, c'est de répondre et de faire changer la vie des gens.
Faire changer la vie des gens, ben voilà une belle option, mais malheureusement, dans le reste du champ politique, on a souvent une belle grosse démagogie associée à la volonté de gagner, tout court. Et voilà comment la démocratie représentative nous vend des programmes de partis politiques dans lesquels notre quotidien est mollement pris en compte. Quand on recueille la parole des habitants, on peut même tendre vers de l'utopie et se fader des pas d'accord, ce qui n'est pas du tout le but quand on fait une campagne électorale où il n'y a pas forcément d'opposition, il suffit de dérouler son programme. Lequel ? Le programme du parti qu'on a recueilli auprès des habitants. Comment ? On sent bien, c'est dans l'air du temps. Alors, quelle est cette parole des habitants qui tend parfois vers l'utopie ? On écoute de nouveau Noam Léandri.
J'ai lu qu'il y avait également eu des consultations. Mon vœu pour Angers.
Après le jour de l'an, on a demandé quel était le vœu que les personnes faisaient pour leur ville. Donc on avait récupéré comme ça, je crois, une centaine de vœux. On a pu les enregistrer et les classer en fait dans l'ensemble des différentes thématiques qu'on commençait à traiter. Et puis on a également fait une enquête terrain thématique sur la question des transports, des mobilités justement. Et donc là, on était dans la rue, on interrogeait les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les usagers des transports en commun pour savoir notamment comment ils se positionnaient par rapport à la gratuité des transports en commun. Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils prennent davantage les transports en commun, parce que nous, on pense que c'est une solution d'avenir. À Angers, il y a un réseau de tramways, de bus assez important. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des bus qui sont vides ou des tramways qui sont quasi vides parfois à certaines heures, alors qu'on a en revanche là, beaucoup de voitures, trop même d'ailleurs pour certains, il n'y a qu'à voir la qualité de l'air. Et donc, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait déplacer davantage de flux vers les transports en commun? Et donc, la question de la gratuité pour nous est importante. Et donc, on a voulu s'appuyer sur ce sondage, cette enquête terrain, pour recueillir du qualitatif, du quantitatif. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte adhésion à la gratuité, au moins partielle, c'est-à-dire le week-end ou pendant des fêtes, par exemple, Noël, on pourrait faire les transports en commun gratuits pour aller au marché de Noël plutôt que tout le monde vienne en voiture dans le centre-ville et ça soit saturé à la fois en termes de pollution, de danger pour les piétons. Il y a des solutions et il y a une adhésion des habitants. Et donc c'était intéressant parce qu'on pouvait échanger à la fois avec des automobilistes, des piétons. On est même tombé sur des contrôleurs des transports en commun. Donc c'était assez intéressant de pouvoir échanger avec eux sur le sujet. Typiquement, les contrôleurs des transports en commun, ils sont assez inquiets de la gratuité. Ils estiment que s'il n'y a pas de prix au transport public, ça n'aura plus de valeur et que ça va être détérioré. Dans nous, dans notre équipe, il y a quelqu'un qui est syndicaliste dans l'agence de transport en commun d'Angers et qui nous aide à faire le lien aussi avec les salariés. Donc on a vraiment des représentants, encore une fois, associatifs, syndicaux. On a des gens qui sont vraiment ancrés dans la réalité et qui peuvent aussi nous faire part aussi des inquiétudes de leurs collègues qu'on essaye peut-être de lever à travers un certain nombre de réponses. Voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir ce lien et que malheureusement les partis politiques n'ont plus. Typiquement, nous, quand on faisait notre fresque sur le terrain, on leur disait quel est votre avis pour la ville. Ils me disaient, mais vous êtes pour qui? C'est pour un parti politique? On disait non, nous, on est un collectif d'habitants, de citoyens, on a envie de voir quels sont les besoins des habitants. Et là, tout le monde nous donnait son avis. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de frein à discuter, à échanger. On aurait mis un logo de parti, on aurait perdu la moitié des habitants. Et donc, les gens qui seraient venus nous voir sont ceux qui nous auraient dit ce qu'on pense peut-être déjà, nous. Et donc, finalement, il y a des cercles d'auto-conviction de ce qu'on croit déjà être vrai. Un peu comme sur les réseaux sociaux, ou avec des choses avec lesquelles on est d'accord.
Donc, le fait que vous soyez juste un collectif citoyen a permis plus de dialogue, à votre sens, que si vous aviez un logo d'un parti quelque part?
Ah, complètement. Je vois qu'il y a une telle défiance vis-à-vis des partis politiques. De toute façon, il n'y a qu'à voir, il y a des enquêtes d'opinion qui ont été faites. Tous les partis politiques recueillent au moins 60% de gens qui ne les aiment pas. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de partis qui sont aimés en réalité. Et donc, dès qu'on met un logo de parti, ça fait fuir les gens. Nous, on avait un logo, ça s'appelle Angers Coopérative. Ah, mais c'est quoi? On n'a jamais entendu. Vous êtes qui? Donc, on leur explique qu'on est un collectif d'habitants, et ben, là, tout de suite, il y a moins de freins à échanger. Et bon, après, ils ont compris peut-être qu'on était d'une certaine tendance politique, quoi. On est plutôt ancré à gauche, avec des écolos, avec des gens qui sont syndiqués. Donc voilà, c'est rare qu'on soit très à droite, marqué à droite, mais ça permet quand même un échange assez libre. Mais voilà, encore une fois, on s'inscrivait dans une démarche vraiment ouverte et citoyenne. Donc tout le monde pouvait rejoindre. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils peuvent aussi venir exprimer leur point de vue. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'exclusive. On ne disait pas à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais là, t'es pas de chez nous, etc. Non, il y a des gens aussi qui assumaient d'être de droite et qui viennent et on échange. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça.
Ah oui, parler à des êtres humains. Oui, c'est sympa, parler à des êtres humains. Mais le parti est clivant. En plus, avec la personnification du pouvoir, chaque parti politique rappelle des bobines qu'on associe au parti. Par exemple, actuellement, vous me dites Les Républicains, tout de suite dans ma tête se bousculent les visages de Retailleau, ah, Wauquiez, Ciotti. Oh la vache! Et dans le passé, si, il y a quelques années, vous aviez parlé des Républicains, c'était Darmanin, Fillon et Sarkozy. Forcément, des hauts de cœur me prennent quand je pense à la vie de jeune homme de Darmanin, aux trucheries de Retailleau. Ben oui, les tricheries de Retailleau, notamment à Interville. Ah, c'est grave quand même. Et Saint-Pierre et Miquelon évoqués, tout de suite. Tiens, ben les camarades de Ciotti à l'Assemblée nationale, là aussi, ça fait gerber. Et les démêlés judiciaires de Sarkozy et Fillon, ne m'en parlez pas. Ça marche aussi pour le PS. Hein. La versatilité d'un François Hollande, d'un Manuel Valls, d'un Olivier Faure, au gré des starapontins proposés, ne rendent pas aisée la discussion avec un militant, même sincère, de ce parti qui se dit socialiste. Mais revenons à la parole des habitants d'Angers. Certains ne savaient peut-être pas que Angers Coopérative était sur le terrain. Alors, comment pouvait-il s'exprimer? Eh bien, on écoute de nouveau Noam Léandri.
Chaque citoyen pouvait participer à travers les ateliers, etc. Et qu'en est-il de ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, mais qui avaient appris, par exemple, un peu plus tard qu'il y avait cette démarche? Est-ce qu'ils pouvaient également participer?
Oui, alors quand on fait des ateliers, on ne prévenait pas, on allait comme ça spontanément sur un marché, un endroit, et donc on restait une heure, deux heures, enfin, en fonction de la fréquentation. On est allé même parfois plusieurs fois au même endroit. à la fin, on a toujours une réunion mensuelle qui s'appelle une plénière, qui est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a rien, il n'y a aucune règle. Tous les habitants peuvent venir, même des gens qui n'habiteraient pas Angers. Il n'y a pas de contrôle à l'entrée et tout le monde participe à la décision. Et donc, par exemple, quand on a réuni au mois de mai dernier toutes les idées des groupes de travail, et ben, tout le monde pouvait être là. On a fait des tables thématiques, on a tourné, chacun pouvait donner son avis. Et à la fin, on a sélectionné les mesures principales. On a validé les fiches projets qu'on a après synthétisées dans un programme d'ensemble. Et donc, toutes ces fiches-là ont pu être discutées librement par personnes qui venaient peut-être pour la première fois, d'autres qui venaient pour la 20e fois. Enfin, tout le monde a la même voix, même poids dans la discussion, dans la décision. Il n'y en a pas qui sont plus légitimes que d'autres. Mais donc voilà, encore une fois, si on va voir les habitants, ça permet d'avoir un panel de points de vue, de personnes qui n'ont pas forcément envie de participer à des réunions publiques, parce que je pense que maintenant, il faut faire ce qu'on appelle aller vers, plutôt que d'attendre que, dire, voilà, je fais une super réunion un soir et venez parce que ça va être génial. On sait très bien que pas grand monde va venir, ou disons que ça va être représentatif de l'ensemble de la population, qu'il faut aller vers en avant de la population, aller écouter des gens qu'on n'écoute jamais. Donc c'est ça qu'on faisait. Alors après, effectivement, ça reste qu'un panel, ça ne peut pas couvrir 100% des habitants, mais après, il restait toujours des possibilités de venir participer. Pour ceux qui avaient absolument envie de porter un message, il y avait ces réunions publiques mensuelles, plénières. Et puis après, il y avait les groupes de travail thématiques, pour ceux qui avaient vraiment quelque chose à apporter très très fort. Et donc voilà, je pense qu'on a réussi à couvrir tous les besoins, les envies. On a aussi écrit à toutes les associations, puisqu'il y a un annuaire des associations à Angers. On a écrit à toutes les associations en leur proposant de participer à ces échanges, à ces débats. Encore une fois, il y en a qui sont venus parfois, peut-être qu'une fois, peut-être deux fois. Enfin, et donc ça a permis de pouvoir s'ouvrir à toute la société civile sur Angers, organisée, hein, les associations.
Là encore, vous dites souvent « on ». Et ce « on », là, il représentait combien de personnes, combien de bénévoles, combien d'impliqués ?
Alors ce « on », ben, aujourd'hui, on est 200 sympathisants. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y avait pas de carte d'adhérent. Mais il y avait sur nos listes de diffusion mail de personnes qui voulaient suivre les informations, il y a 250 personnes. Dans une boucle WhatsApp sur laquelle on échangeait les informations, il y a aussi 200 et quelques personnes. Dans les réunions publiques, on est monté jusqu'à 170 personnes participant dans une réunion publique. Donc voilà, c'est ça l'ordre de grandeur. Et après, on avait des groupes, des cercles thématiques. On avait une vingtaine de référents sur ces cercles thématiques. Donc c'était les chevilles ouvrières du projet. Il y a d'autres personnes qui étaient plus sur des actions de mobilisation, de terrain, d'organisation aussi, d'événements. Et donc là, pareil, en fait, c'était une trentaine d'acteurs très impliqués, qui étaient des référents, on va dire, qui avaient un rôle là, qu'on s'était donné, et qui se réunissaient aussi à travers ce qu'on appelait un comité de coordination. C'est-à-dire que pour nous, ce qui était l'organe décisionnel, c'est la plénière, c'est tout le monde. Mais tout le monde sans adhésion, tout le monde qui est présent au moment, et donc on veille au consensus pour la prise de décision. S'il n'y a pas un consensus, on peut aller jusqu'à un vote à la majorité des deux tiers. C'était la règle de décision qu'on s'était donnée. Et ensuite, il y a un comité de coordination qui veille au bon avancement des décisions qu'on a pu prendre en plénière. Et il y a des cercles thématiques qui produisent des idées et des propositions, et donc voilà, qui ont nourri ce projet. C'est comme ça qu'on s'est organisé. Et quand je dis « on », c'est tout ce collectif de personnes qui, à un moment, ont eu envie de contribuer, une trentaine de personnes très impliquées et 200 personnes qui étaient sympathisantes.
Voici donc l'architecture de Angers Coopérative. Pour ceux qui seraient intéressés par la démocratie, c'est-à-dire donner le pouvoir d'agir à la population, pas la peine d'avoir peur de créer une usine à gaz. Rapprochez-vous par exemple de La Ferté Citoyenne qui est en train de faire le job à La Ferté Bernard, ou de Fréquence Commune, une coopérative dont nous avons déjà parlé et qui conseille les collectifs de démocratie participative et citoyenne, fréquencecommune.fr, fréquence au singulier commune aussi, .fr. De fait, l'idée, c'était d'essayer de regrouper un peu tout le monde. Alors, un peu tout le monde, bien sûr, il y a des pans du champ politique avec lesquels on n'a pas du tout envie de travailler et qui n'ont pas du tout envie de travailler avec des gens de gauche non plus. Les individus et le tissu associatif, comme on dit, ont été donc regroupés, des individus organisés en associations, consultés à travers quelques outils. Des outils finalement très faciles à trouver pour ceux qui, au Mans par exemple, voudraient faire dans la démocratie. Ces derniers peuvent très bien s'inspirer des fiches qui se trouvent sur le site du réseau Action Commune. Fréquence Commune vient d'Action Commune. Et on en reparle de ça incessamment sous peu. Donc là, c'est un réseau de collectifs citoyens qui ont déjà fait le boulot en 2020 et qui se sont formés petit à petit. Eh bien, ces collectifs citoyens nous donnent des informations sur le site actioncommune.org, donc action au pluriel, commune au pluriel, .org. Vous cherchez dans la boîte à outils et là, vous trouvez des fiches. Et sur ces fiches outils, eh bien, on pourra vous expliquer, par exemple, comment aller chercher les gens, aller vers, comme disait Noam Léandri, ou animer une réunion publique. Et comment on fait tout ça? Eh bien, il suffit de se former un chouïa. Maintenant, si on n'a pas de volonté démocratique, hein, ça se passe tout seul. Il suffit de faire son programme tout seul, de faire croire que on a un petit peu interrogé les habitants, faire une petite réunion pour la couleur des pots de fleurs et dire, vous voyez, ils ont décidé. De fait, depuis des lustres et en ce moment, depuis 10 minutes, nous parlons de donner la parole à la population. Mais au fait, pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'elle seule sait ce dont elle a besoin. On retrouve Noam Léandri.
Dans votre projet, il y a l'idée de budget participatif par quartier et de comité d'usagers pour un certain nombre de services publics.
En termes de démocratie locale, on voudrait pouvoir décentraliser au niveau des quartiers les prises de décision. Aujourd'hui, il y a un budget participatif de la ville qui se fait sur l'ensemble de la ville, mais on a l'impression quand même que c'est souvent les mêmes qui proposent les projets et il y a une présélection qui est faite au niveau de la municipalité. On aimerait que chaque quartier soit autonome dans la gestion du budget municipal. En vérité, ça peut être un budget participatif, mais même pourquoi pas un certain nombre de décisions. Aujourd'hui, le plus gros budget d'une commune, c'est les routes, l'entretien des routes. Pourquoi est-ce que c'est au niveau de la mairie qu'on décide de savoir quelle route il faudrait rénover, remplacer, corriger, un trottoir même ou une piste cyclable? En fait, voilà, où il y a un budget important qui est fait aujourd'hui sur la voirie, bah, pourquoi on ne le décentralise pas plutôt que ce soit des choix plus politiques à l'échelle de la ville? Pourquoi ça ne serait pas plutôt à l'échelle du quartier? Ça fait partie des pistes qu'on voulait et que les usagers, en fait, ils savent mieux que quiconque quel est le besoin prioritaire. Est-ce qu'il vaut mieux réparer le trottoir? Est-ce qu'il vaut mieux boucher le nid de poule ou refaire la peinture au sol, quoi, voilà. Je pense que c'est des choix qui les concernent avant tout.
C'est la même idée avec les comités d'usagers. Les gens ont l'usage du service en question, donc ils sont les plus à même de savoir ce qu'il faudrait changer dans ce service.
Oui, exactement. Plutôt que d'avoir des élus experts qui sauraient mieux que les autres ce qu'il faudrait faire pour les citoyens contre leur avis. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes ou d'autres mouvements, à quel point ça ne marche pas. Et il vaut mieux justement partir de l'expertise d'usage des habitants, parce qu'eux, ils sont usagers, donc ils savent, ils voient concrètement comment ça marche, comment ça ne marche pas. Ils ont probablement des propositions à faire. Moi, je vois typiquement, on a aujourd'hui ce qu'on appelle un système de territoire intelligent. C'est-à-dire qu'on a investi plus de 100 millions d'euros dans du numérique pour proposer des services numériques aux habitants. Personne ne voit concrètement ce que ça a changé. Par contre, on a englouti 100 millions d'euros, ça c'est sûr. Alors qu'il y a un truc tout bête, c'est qu'aujourd'hui, le système en ligne de réservation des centres aérés déconne à chaque fois que c'est ouvert avant les vacances. Il faut faire une queue pendant une heure en ligne ou devant la mairie pour pouvoir s'inscrire au centre aéré. Et on n'a pas résolu ce logiciel qui déconne. Et plutôt que d'engloutir 100 millions d'euros dans des capteurs pour savoir s'il a plu, savoir s'il faut arroser les plantes, alors qu'il y a les jardiniers qui sont là pour ça, et ben on aurait peut-être pu juste remplacer le logiciel pour qu'il fonctionne. Ils s'arrachent les cheveux, les parents d'élèves, avec ça.
L'usager expert plutôt que le technocrate expert, l'habitant organisant le territoire qu'il habite plutôt que l'élu, parfois motivé par des avantages en nature. Ah oui, oui, la corruption existe dans le coin. Parfois emporté par son ego, hein, cet élu emporté par son ego, ça s'est vu. Parfois, l'élu est aussi aux prises avec des pressions économiques. Et malheureusement, si on additionne tous ces parfois, il reste peu de place pour le réel intérêt des habitants. En démocratie, le pouvoir d'agir appartient à la population. Et pas aux élus. Angers Coopérative ne poursuit plus son petit bonhomme de chemin à Angers. Elle est dorénavant intégrée à une liste de rassemblements intitulée « Demain Angers » avec d'autres collectifs citoyens et surtout des partis politiques. Alors comment s'est faite cette intégration et quid du travail entamé dès septembre 2024? Eh bien nous verrons ça la prochaine fois.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Si vous voulez des informations sur la Sarthe et le Mans, n'hésitez pas à aller voir sur l'arnapé avec deux E à la fin, .info, l'arnapé.info et sur sarthe.demosphère.net. Bon ben voilà, je crois que le temps qui nous était imparti est carrément passé. C'est pourquoi je vous dis tout simplement allez, au revoir.
Mmh.